À la recherche du Québec, par Alexis Tétrault, avec Raphaël Bergeron-Gauthier. Chers auditeurs, bienvenue à ce nouvel épisode de À la recherche du Québec. Le régime seigneurial n'occupe pas une place de choix dans notre mémoire collective. Pourtant, il va de pair avec notre enracinement en Amérique. Idem pour la figure du seigneur dont nous avons souvent une vision caricaturale. Pour remettre un peu d'ordre dans notre connaissance du régime seigneurial, des seigneurs et de leur rôle, j'ai le plaisir de recevoir Raphaël Bergeron-Gauthier, qui vient tout juste de déposer un excellent mémoire de maîtrise sur un éminent seigneur, Joseph Drapeau. Reconnu comme étant le premier millionnaire au temps où les Québécois s'appelaient encore des Canadiens. Alors, Raphaël Bergeron-Gauthier, bonjour.
Bonjour, M. Tétrault, merci de me recevoir aujourd'hui.
Et merci à vous de m'accorder cette entrevue. Alors, première question toute simple, je vous demanderai, comme j'ai l'habitude de le faire, de vous présenter à mes auditeurs, peut-être de nous parler de votre parcours, de votre intérêt pour l'histoire dans votre cas, mais pour les sciences sociales en général. Alors, qui êtes-vous?
Bon, donc, qui je suis? Si j'avais à me décrire, je commencerais par dire, en fait, que j'ai grandi à la campagne. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Watton, un petit village de l'Estrie. J'ai fait mon école primaire là-bas. Ensuite, j'ai fait mon école secondaire à Asbestos, qui aujourd'hui est reconnu comme étant Val des Sources, mais que pour les personnes qui s'intéressent à l'histoire, connaissent la ville d'Asbestos pour notamment les grèves de l'amiante en 1949. Alors, je viens vraiment d'un milieu rural, puis je pense que ça a été fort dans mon identité parce que j'ai eu un rapport au territoire québécois très prononcé avec mes amis, ma famille. On était souvent en nature, puis j'ai appris à apprécier le territoire québécois. À ce moment-là, je crois que je réalisais pas que ça allait contribuer à mon intérêt pour l'histoire du Québec. Maintenant, je le réalise. Sinon, mon rapport peut-être à la connaissance, aux livres ou à la pensée critique est justement arrivé au cégep de Sherbrooke quand que, j'ai commencé mon programme en sciences humaines. Là, j'ai vraiment découvert un monde qui m'était complètement inconnu là, jusque-là. J'ai eu des cours d'anthropologie, de sociologie, de politique, d'économie et évidemment d'histoire. Toutes ces disciplines m'intéressaient, je dois dire, de manière assez égalitaire. Donc, je savais pas j'allais poursuivre en quoi à l'université. Mais c'est vraiment, en fait, j'ai eu un professeur du nom de Claude Belzil qui m'a donné un cours sur l'histoire des États-Unis au 20e siècle. Puis je me suis dit, bon, ça y est, je poursuis en histoire au baccalauréat. Donc voilà, je commence mon programme à l'université de Sherbrooke. Puis j'étais vraiment intéressé pour l'histoire en général. J'avais pas un intérêt particulier pour l'histoire du Québec à ce moment-là. C'est vraiment à la deuxième année du baccalauréat où est-ce que j'ai eu une activité de recherche avec l'historien et professeur Benoît Grenier. Cette activité de recherche consistait justement à étudier le régime seigneurial, mais notamment son abolition et les persistances qui ont suivi. Donc, dans le cadre de ce cours-là, j'ai travaillé sur la seigneurie de Beaupré, qui appartient encore de nos jours au séminaire de Québec.
Vous voulez dire le territoire qui était autrefois la seigneurie à partir...
Exactement, mais en fait, ce territoire s'appelle encore la seigneurie de Beaupré. Mmh. Donc, ils ont gardé le même nom, mais tu sais, c'est un territoire de 1600 km2. C'est une propriété privée, l'une des plus grandes propriétés privées d'Amérique du Nord. C'est plus grand que 55 États sur la planète. Puis moi, j'étais complètement fasciné. Puis je me suis dit, bon, ça y est, moi, j'ai vraiment envie de mieux connaître l'histoire d'où est-ce que je viens, en fait. Puis c'est à partir de cette activité de recherche-là que j'ai décidé de poursuivre en histoire du Québec, justement avec Benoît Grenier qui donnait l'activité de recherche. Puis au fil des discussions, bon, c'est venu sur le sujet qu'il y avait un éminent seigneur marchand qui était mentionné régulièrement dans les monographies et tout, mais qui n'avait pas vraiment, en fait, d'études longues faites sur cet individu-là. On avait un article qui datait de 1927, puis sa biographie dans le dictionnaire biographique du Canada, mais qui faisait uniquement deux pages.
Qui faisait dater des années 60?
Début des années 80, donc 83, oui. Si je me souviens bien. Mais c'est vraiment plus le récit chronologique, en fait, des événements marquant de sa vie. Puis il y a d'ailleurs plusieurs erreurs qui se sont glissées. Donc c'est ça. Donc j'ai travaillé sur ce seigneur-là à la maîtrise. J'ai déposé mon mémoire tout récemment, à l'automne 2021. Puis je suis présentement au doctorat en co-tutelle à l'Université de Sherbrooke et l'Université Lorraine en France. Donc puis je poursuis justement sur le Québec pré-industriel des 18e et 19e siècles.
Excellent. Alors, parlons-en de votre mémoire de maîtrise. Très rapidement, là, évidemment, on va rentrer dans les détails de sa vie, là, mais si vous aviez à nous présenter sommairement le seigneur Joseph Drapeau, comment le feriez-vous?
De manière sommaire, bon, évidemment, c'est quelqu'un qui provient de la paysannerie canadienne. C'est un individu qui a connu une ascension socio-économique remarquable sous le régime anglais. En fait, il vient de la région de Pointe-Lévis, qui est juste au sud de la ville de Québec. À l'âge de 18 ans, il s'en va à Québec, il devient marchand, il devient commis chez un marchand de provisions, ensuite marchand à son compte, il est en mesure d'accumuler un capital considérable. Il se marie avec la fille d'un seigneur, donc il connaît une ascension sur le plan symbolique, hein, en devenant le gendre d'un seigneur. Et 7 ans après ce mariage, il devient seigneur lui-même, donc il fait... Au cours de sa vie, il va faire l'acquisition de 20 seigneuries ou portions de seigneuries. Donc, il va vraiment se constituer un ensemble seigneurial considérable. Puis, à la fin de son parcours, il est politicien pour le Parti canadien. Donc, il y a vraiment... c'est un exemple typique d'un individu, d'un Canadien français qui connaît une ascension socio-économique sous le régime anglais, là.
Vous parlez du régime anglais, pouvez-vous juste nous situer rapidement, entre quelle année va-t-il sévir ou disons...
Oui, ben en fait, lui, il est né en 1752, donc sous le régime français, ce qu'on appelle la Nouvelle-France. Mais en 1760, il y a un événement marquant dans l'histoire du Canada qu'on appelle la conquête. C'est en fait les Canadiens changent d'allégeance, hein. On passe d'une monarchie de droit divin à une monarchie constitutionnelle, puis c'est surtout on passe sous l'autorité des Britanniques, en fait. Donc Joseph Drapeau va connaître cette transition-là, puis quand on parle du régime anglais, justement, ça commence à partir de 1763 avec le traité de Paris, où est-ce que la France va céder la Nouvelle-France à l'Angleterre, en fait, là. Ouais.
Et puis dans votre mémoire, il y a un très beau passage sur l'intérêt d'étudier comme ça un personnage ou l'intérêt de rédiger une biographie historique. Pouvez-vous nous en parler puis nous dire pourquoi d'abord vous aviez à vous justifier d'écrire une biographie historique? Est-ce que le genre est complètement abandonné dans les départements d'histoire? Est-ce que c'est mal vu? Êtes-vous toujours en train de légitimer votre recherche, votre biographie? Alors, quel est l'intérêt pour la biographie historique?
Ben, c'est une excellente question. En fait, ce qu'on remarque, c'est que... si on fait vraiment dans le temps long, là, l'histoire de la biographie, avant l'institutionnalisation de l'histoire au 19e siècle, la biographie était surtout utilisée pour faire l'histoire des grands hommes, hein, les généraux, les rois, donc les grands hommes, c'était l'histoire politique. Puis, au début du 20e siècle, il y a eu un mouvement en histoire qui s'appelle la nouvelle histoire sociale ou ce qu'on appelle l'école des annales. Donc, ce mouvement-là a dénié, en fait, a mis de côté la biographie historique parce qu'en fait, il considérait qu'il n'y avait pas d'intérêt à étudier le parcours d'un seul individu. L'intérêt était plus de comprendre les grands ensembles économiques ou sociaux. Donc... l'école des annales voulait comprendre justement les structures qui régissent la société. C'était vraiment une histoire comme quantitative. Donc, on voulait aller on voulait beaucoup de résultats, beaucoup de trajectoires, beaucoup de données. Donc, c'est ce qu'on appelle l'histoire sérielle. Puis, donc, en histoire, la biographie a été fortement attaquée durant le 20e siècle. Puis, même en dehors des disciplines de l'histoire, le sociologue Pierre Bourdieu a parlé d'illusion biographique. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss a réduit ce genre-là à quelque chose de complètement insignifiant. Il faut attendre, en fait, la fin des années 1980 pour que Giovanni Levi, qui est un historien italien, mais qui est aussi considéré comme le père de la microhistoire, pour qu'il redonne un sens, là, qui ramène un peu l'intérêt de faire une biographie historique, pour rappeler que, hey, au final, dans l'histoire, c'est des individus, hein, qui composent l'histoire, puis il faut pas enlever ce facteur humain-là de cette analyse de notre compréhension, puis... La micro-histoire a mis en relief un peu les limites de l'histoire dans une perspective macro. C'est les deux se complètent, puis les deux sont importantes, mais l'une n'est pas meilleure que l'autre, en fait. Puis à partir de ce moment-là, il y a plusieurs historiens qui ont été dans cette voie-là, puis qui ont comme redoré l'image de la biographie historique, mais surtout qui ont démontré la pertinence. Je pense notamment à Antoine Prost ou Yves Gingras, Michel Bock, donc qui ont toutes... souligner la pertinence de la biographie historique. Puis, en fait, ce qui est pertinent de ça, c'est que souvent, ça peut être un exemple de cas-problème, comme en ce qui concerne Joseph Drapeau, qui est susceptible de relancer la recherche, en fait. Puis, la biographie historique, c'est surtout, en fait, le but, c'est pas de faire une biographie classique dans le sens où, comme j'ai mentionné tantôt, on énumère les éléments marquants de la vie d'un individu, mais non, on se sert de cette trajectoire-là pour comprendre la société dans laquelle cette trajectoire-là s'est inscrite. Donc, ça va vraiment au-delà de juste l'individu, même si l'individu est notre cadre d'analyse, disons.
Alors, commençons avec la biographie du dit individu, le seigneur marchand Joseph Drapeau. À quoi ressemble son enfance? Et puis, dans votre mémoire, je vends un peu la mèche, là, mais vous dites qu'il y a très, très peu d'éléments dans les sources sur son enfance. Et pourtant, vous arrivez à brosser le tableau de son enfance de manière tout à fait précise, ou du moins, on comprend d'où il vient et on comprend... très bien quelle sera son ascension. D'une part, quelle est cette enfance? Et d'autre part, comment avez-vous réussi à la reconstituer n'ayant pas beaucoup de sources parlant spécifiquement de M. Drapeau?
Oui, c'est une excellente question encore. En histoire, en fait, quand on n'a pas beaucoup de sources, mais en fait, c'est pratiquement toujours ça en histoire. On doit composer avec les traces que le passé nous a laissées. Puis c'est ce qu'on appelle la rétrodiction, en fait. C'est... de reconstituer le récit entre l'avéré et le plausible, donc entre ce que les sources nous disent puis ce qu'on peut déduire du contexte et de ce qu'on connaît du contexte. En ce qui concerne justement l'enfance de Joseph Drapeau, comme je mentionnais tantôt dans sa biographie, dans le Dictionnaire biographique du Canada, il y a deux lignes. Hein. Ça dit ses origines sont modestes. Il est le fils des cultivateurs Pierre Drapeau et Marie-Joseph Huard dit Désilet. C'est tout. Je suis comme, bon, on part de loin. Moi, j'ai envie de savoir davantage sur lui parce que je crois que pour évaluer l'ascension socio-économique de quelqu'un, c'est pertinent de connaître ses origines. Bon, on s'entend sur ça. Donc là, je me suis questionné, OK, donc on sait qu'il provient de la paysannerie canadienne, c'est déjà un départ. La paysannerie canadienne, au milieu du 18e siècle, elle ressemblait à quoi? Fait que là, on peut lire tout plein d'historiens, puis je me suis notamment basé sur les études de Christian de Sureau qui démontre en fait que la paysannerie canadienne ne formait pas un groupe homogène, formait vraiment un groupe hétérogène. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, la paysannerie canadienne forme un groupe hétérogène. Je veux être capable de situer la famille Drapeau dans cette hiérarchie paysanne-là. Donc, est-ce qu'elle était complètement au bas? Est-ce qu'elle était en haut? Donc, ça pourrait m'éclairer un peu sur son parcours. Donc, à partir de ça, j'ai retracé un peu l'enracinement au territoire. J'ai remonté dans les ancêtres de Joseph Drapeau, puis j'ai retracé la terre familiale, en fait, pour me rendre compte qu'il vivait sur le premier rang. Donc ça, c'est un indicateur fort dans la colonisation parce que les familles qui vivent sur le premier rang, c'est des anciennes familles, en fait, parce que ça fait plusieurs générations qui sont là.
Donc on pourrait dire que ce sont les premiers colons, les premiers habitants vraiment de la Nouvelle-France?
Exact. Pas de la Nouvelle-France, mais de cette zone de peuplement. Donc à Pointe-Lévis, les ancêtres de Joseph Drapeau, donc Antoine Drapeau, qui arrivait directement de France, en 1640, je crois qu'il
donc
était...
Donc, avant la politique de colonisation.
Exactement. Donc, c'est vraiment... C'est des familles qui sont installées là depuis longtemps, mais qu'est-ce que ça implique d'être installé sur une terre depuis 4 générations? Ça veut dire que la terre est complètement défrichée. Il n'y a plus de souche, on peut cultiver. Il y a des chances qu'on ait une maison en pierre, une grange, beaucoup d'animaux. Donc ça, c'est un...
Toutes des choses qui n'allaient pas de soi, donc.
Exactement, parce que quand on arrive sur des fronts pionniers, on part à zéro, en fait. Hein? On se fait donner une terre, mais souvent, les gens, je ne sais pas s'ils conçoivent qu'en fait, ils appelaient ça une terre en bois debout, mais c'est de la forêt, là. Donc il faut abattre les arbres, il faut les dessoucher. Ça peut prendre 10 ans là, avant d'avoir une terre qui permet à la famille de se nourrir, en fait. Là. Donc c'est un processus qui est très long. Puis donc c'est ça, donc j'ai retracé en fait l'enracinement lointain, j'ai établi que c'était une ancienne famille. Donc déjà là, ça en dit long sur la place qu'ils occupent dans la hiérarchie paysanne. Ensuite, j'ai reconstitué un peu le portrait de sa famille, donc ses frères et sœurs. Je me suis rendu compte qu'il y avait 2 unions. Donc quand sa mère est décédée, son père a remarié une Acadienne. Puis en tout, Joseph Drapeau a 18 frères et sœurs. J'ai analysé le parcours avec le programme de recherche en démographie historique. On a accès, par exemple, à la profession des personnes. Donc j'ai regardé la profession de ses frères et sœurs. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, mis à part un de ses frères, qui était également marchand, ils ont tous reproduit le modèle familial. Donc, ils
sont tous devenus cultivateurs.
Cultivateurs, ils ont tous reproduit. Donc ça en dit long quand même un peu sur la modestie de ses origines. Tu sais, la majorité de sa famille a reproduit ce modèle-là. Mais sinon, je pense que l'élément le plus significatif, c'est avec le calcul de l'indice du niveau de vie. Donc, c'est pour établir la situation socio-économique. Puis ça se fait à partir d'une seule source que j'ai été en mesure de retrouver, qui s'appelle un inventaire de biens après décès. Donc, en Nouvelle-France, quand, par exemple, un couple est marié, puis qu'il y a une des deux personnes qui décède, ben le veuf ou la veuve s'en va chez le notaire, puis fait un inventaire de tous les biens, là, mais littéralement tous les biens qui sont en leur possession. T'sais, on voit dans les sources des fois un vieux fauteuil qui manque une patte, un buffet qui manque une porte. T'sais, les détails sont très présents dans les inventaires de biens après décès. Donc à partir de ça, il y a des historiens. En fait, c'est Micheline Beauland qui est une historienne française qui a développé ce modèle-là. Puis elle divise en fait la catégorie. Elle fait le calcul sur 100 points, qui est divisé en 5 catégories qui valent pour 20 points chacune. Donc, on a la catégorie nécessaire, vie domestique, confort, civilisation et luxe. Puis, c'est vraiment, en fait, on va retracer les objets, puis on va les mettre dans les catégories, puis on va faire une distribution de points. Donc, j'ai calculé l'indice de niveau de vie de la famille Drapeau.
Qui, à l'occasion du décès de qui précisément vous avez eu cet inventaire?
De la mère de Joseph Drapeau.
De la mère de Joseph.
Oui, c'est ça. Marie-Joseph Huard Désilet, qui est décédée en 1767. Donc, à l'âge, Joseph Drapeau avait 15 ans. C'est 3 ans avant son départ pour la ville de Québec. Donc, c'est un bon aperçu pour considérer un peu les conditions socio-économiques dans lesquelles il a grandi. Mmh. T'sais. Mais finalement, je me suis rendu compte que la famille Drapeau vivait bien au-dessus des standards de la paysannerie à cette époque. L'historien Christian de Sureau, justement, a fait une moyenne à cette époque. Le calcul de l'indice de niveau de vie était de 33 environ, puis la famille Drapeau est à 43.
33 points sur l'échelle de 100 points dont vous parliez.
Exactement, sur l'échelle de 100 points. Puis, tu sais, pour la catégorie nécessaire et vie domestique, ils ont eu les 20 points. Donc, il y avait vraiment tous les éléments de base pour avoir une bonne culture matérielle, disons. Puis il y avait même des éléments de civilisation comme des couteaux, des épices, des éléments comme ça. Faut qu'on voyait qu'il y avait un processus d'entamé dans cette famille-là, malgré tout. Puis c'est ça, donc ça m'a vraiment permis de nuancer les origines modestes qui étaient mentionnées justement dans le dictionnaire biographique du Canada. Là.
Donc, une famille bien établie,
oui,
qui reproduit en large partie ce mode de vie-là. Là. Vous dites que ses frères et sœurs sont devenus presque tous paysans. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que Joseph Drapeau, lui, ne deviendra pas paysan? Et pourquoi quitte-t-il Pointe-Lévis pour la ville de Québec?
C'est une excellente question. J'ai émis quelques hypothèses, mais j'ai pas de réponse concrète. En fait, son frère aîné, comme j'ai mentionné tantôt, André, qui s'appelle, était marchand, en fait. Donc, je me dis peut-être que le parcours de son frère a pu l'influencer à lui-même vouloir être marchand. Mais sinon, un élément assez clair, c'est qu'au moment où Joseph Drapeau devient adulte, son père est encore en vie, puis il n'est pas prêt à léguer sa terre, donc il ne peut pas reprendre la terre familiale. Puis il y a énormément de frères et sœurs, donc les possibilités de s'établir dans la région de Pointe-Lévis sont limitées là, pour lui, disons. Donc il aurait fallu qu'il aille sur d'autres fronts pionniers, par exemple dans le Bas-Saint-Laurent, que ça commençait vraiment à se développer. Peut-être qu'il n'y avait pas cette envie-là. Sinon, un goût pour l'aventure, peut-être, c'est une excellente question. C'est difficile à établir.
Alors, il quitte pour Québec. Vers quelle année et où s'installe-t-il à Québec?
Il arrive à Québec au début des années 1770. Puis, il va s'installer dans la basse ville, près de la place du marché, en fait, justement. Il va être, comme je mentionnais tantôt, commis chez un marchand de provisions. Puis, éventuellement, il va acheter un magasin général, puis il va devenir marchand à son compte. C'est comme ça que son histoire, dans une perspective un peu capitaliste, là, disons, ou le capital marchand, mm-hmm. C'est comme ça que son histoire débute.
Et puis, comment se poursuit-elle? Quel est, le premier indice qui vous fait dire que voici un fils de paysan qui est en pleine ascension sociale, en pleine ascension socio-économique? Y a-t-il un moment particulier, l'achat d'une entreprise en particulier, une année, un événement, que sais-je?
Ben, je dirais, en fait, les balbutiements de ses activités marchandes dans les années 1770, c'est très discret. Hein? Il achète un magasin général. J'ai retrouvé dans la Gazette de Québec de 1779 une liste. En fait, le gouvernement annonce on donne des permis pour vendre des spiritueux, donc des boissons alcoolisées. Et puis, bon, je regarde dans la liste, je vois Joseph Drapeau. Donc, j'étais bien content de trouver cette information-là. Mais, donc, c'est ça, tu sais, en 1779, donc à la fin de la décennie, il obtient un permis pour vendre des spiritueux. Puis, ça, c'est un élément clé, je crois, parce qu'à cette époque-là, la consommation d'alcool était très forte hein, dans la ville de Québec, mais aussi partout dans la province de Québec. Puis j'ai l'impression que Joseph Drapeau était bien au fait de cette réalité, puis qu'il allait ce permis allait attirer de la clientèle dans son magasin général parce qu'il pouvait vendre en fait des boissons alcoolisées. Puis c'était le deuxième produit de consommation le plus en demande en fait dans la colonie après le textile. Puis Joseph Drapeau vendait également du textile. Donc vraiment à la fin de la décennie, ses activités commencent à se diversifier, mais sans
la décennie 70.
Ouais, la décennie 1770, pardon. Puis commence à se diversifier, mais je dirais que le moment où est-ce qu'on peut dire que son ascension est très concrète, c'est dans la décennie suivante, mm-hmm. En 1780. Alors là, il diversifie vraiment ses activités économiques, puis. Ça devient très, très concret la décennie d'après. Là.
Avant d'arriver à cette décennie 1780 où ses affaires vont de mieux en mieux, j'aimerais vous poser une question sur ce que vous avez appelé la culture de la taverne.
Oui.
C'est-à-dire justement avec ce principe selon lequel vendre de l'alcool, c'est payant. Vous dites que c'est surtout avec l'arrivée des Anglais la prise de possession du Canada et de la Nouvelle-France par les Anglais amène la culture de la taverne. Alors, ma question serait en deux temps. Comment la présence des Anglais influe sur l'ascension de Joseph Drapeau ou de tout Canadien français de l'époque? Et puis, quelle est la spécificité de cette culture de la taverne-là?
Pour répondre à la première question, alors là, c'est sûr que ça l'influence très fortement. Justement, l'historien Fernand Ouellet a établi que dans les décennies qui suivent la conquête, les marchands britanniques vont contrôler jusqu'à 75 % du commerce de la colonie. Puis ça, c'est majeur. Hein, t'sais, tantôt, je parlais de justement le permis pour la vente de spiritueux. Puis dans cette liste-là, il y a 66 noms, ou en tout cas proche 70 noms. Puis il y a moins d'une vingtaine de francophones. Le reste, c'est tous des anglophones. Mais on dit que c'est majeur parce que les anglophones représentent 65-70 % des détenteurs de ce permis-là, alors qu'ils sont moins de 6 % de la population à cette époque-là. Donc, on voit qu'il y a un ratio complètement disproportionné d'un point de vue démographique par rapport au contrôle qui ont sur le commerce de la colonie. Alors là, c'est définitif que pour un Canadien, c'était plus difficile de performer dans ce marché-là que pour un anglophone, par exemple. Puis là, je vais préciser, en fait, je dis un Canadien, mais à cette époque, c'est que, comme vous avez mentionné en introduction, ça va de soi. Hein? Dire un Canadien, c'est comme parler d'un Québécois aujourd'hui. Donc, il y a une époque où un Canadien, ça allait de soi que c'était francophone. Ensuite, on a la conquête. Donc, avec la conquête arrivent des migrants britanniques et aussi les loyalistes avec la Révolution américaine, exactement. Puis, à partir du moment où des anglophones qui sont installés au Canada commencent à avoir des enfants, donc des natifs du Canada, on commence à faire la distinction entre Canadien-anglais, Canadien-français. Puis, bon, le terme québécois va arriver beaucoup plus tard, là, notamment au moment de la Révolution tranquille. Donc, c'est ça. Donc, je parle de Canadiens. Puis, c'était plus difficile pour les Canadiens de performer dans ce marché-là. Quant à la culture de la taverne, c'est vraiment un phénomène qui a été exporté de l'Angleterre. Hein. C'est l'historien Mathieu Perron qui a travaillé sur cette thématique. Puis, c'est en fait les Anglais, que ce soit dans les milieux populaires ou élitaires, aimaient vraiment, en fait, je crois, se retrouver autour d'une consommation dans un endroit qu'ils appelaient la taverne. Donc, ils ont vraiment démocratisé l'accès aux tavernes, ce qui était plus contrôlé au temps de la Nouvelle-France. Donc, il s'est développé une culture de la taverne dans la ville de Québec, mais aussi partout dans la colonie, là.
Alors, Monsieur Joseph Drapeau devient marchand, et puis il me semble qu'à la fin des années 1770, il se marie au début des années 80.
Oui, au début des années 1780.
Alors, au début des années 1780, et son mariage est une composante essentielle de son ascension.
Absolument.
Voulez-vous développer sur cette
idée? Oui, oui. Donc, c'est le 14 octobre 1782, il marie Marie-Geneviève Noël, qui est la fille du seigneur Jean-Baptiste Noël. Puis lui, en fait, il est le seigneur de la seigneurie de Tilly, Bon Secours et Lachenaie, qui sont juste à l'ouest de la seigneurie de Lauzon où Joseph Drapeau a grandi. Donc ça, c'est majeur parce que d'un point de vue symbolique, ça lui donne un capital social, si on peut utiliser l'expression, très considérable. Hein? Tu sais, il devient le fils d'un seigneur, puis ensuite... Justement, il est initié à l'administration seigneuriale, donc le fait de côtoyer une famille qui vient de ce milieu-là, il voit comment ça fonctionne. Puis aussi, pendant ces années-là, le père de sa femme va connaître une expansion, en fait. Il va aller faire l'acquisition de portions de seigneurie également. Fait qu'il va avoir un modèle d'un seigneur qui ne se contente pas d'une seule seigneurie. Donc ça, je crois que ça l'a quand même joué dans son parcours parce que en fait, justement, c'est 7 ans après son mariage, il va faire l'acquisition de sa première seigneurie. Puis ce sera le début d'une longue aventure dans le régime seigneurial. Mais donc voilà, je pense que c'est important vraiment sur le plan symbolique parce qu'il faut rappeler que on est dans une société en plein changement puis qu'on voit que la modernité est en train de s'installer, il y a encore les bases d'une société d'ancien régime, hein, puis les seigneurs siègent au sommet de cette hiérarchie-là. Donc c'est un aspect qui n'est pas négligeable à cette époque.
Et comment est-ce que le fils de paysan en arrive à se marier avec une femme de l'élite canadienne?
Oui, c'est ce qu'on appelle en fait un mariage exogamique, donc de se marier en dehors du groupe duquel on provient. C'est vraiment parce que Joseph Rappa est en mesure d'accumuler du capital, je crois. Là. Donc
dans les années 80, ses affaires vont très bien.
Absolument, oui, ses affaires vont très bien. Puis même au moment de son mariage, on a une liste, justement, un inventaire de tous les biens possédés par Joseph Rappa et sa fortune. Donc, il commence à accumuler des milliers de livres. Ça paraît pas beaucoup quand on en parle aujourd'hui, mais par exemple, je me projette loin, mais au moment de sa mort, j'ai évalué sa fortune à 60 000 livres anglaises, puis ça l'équivaut environ à 4,5 millions de dollars actuellement. Là. Donc, le fait d'avoir quelques milliers de livres à cette époque-là est très considérable, considérant qu'une terre peut valoir 100 livres, là, par exemple.
Puis dans les années 80, de quelle manière est-ce qu'il diversifie son activité économique? Puisque au terme des années 80, comme vous l'avez dit, il va devenir seigneur.
Oui.
Mais entre son mariage et l'acquisition d'une seigneurie, que se passe-t-il?
Donc, il va faire beaucoup d'acquisitions dans le domaine de l'immobilier. Donc, il va acheter des maisons dans la basse ville, à la haute ville. Il va acheter des terres, des fermes, d'autres maisons à Pointe-Lévis, Kamouraska, Rivière-Ouelle. Donc, on voit qu'il fait beaucoup d'acquisitions. Puis, ces maisons-là ou ces fermes-là, il les loue. Il les loue, par exemple, une ferme à Kamouraska. Il va la louer avec un bail à ferme. Donc, il donne la ferme avec la terre défrichée à un paysan, puis lui, il lui doit des redevances annuelles. Puis avec, par exemple, en récoltant le blé, ben Joseph, il peut les revendre le blé sur le marché, parce qu'à cette époque-là, le blé a une grande valeur sur le marché. Donc, c'est ça, dans l'immobilier. Sinon, il va faire des alliances commerciales avec des marchands de la haute ville pour étendre son réseau de distribution, mais également avec des maisons de commerce britanniques. Je pense notamment à la maison de John Blackwood, si je me trompe pas. Là. Mais donc, c'est ça, des alliances commerciales qui va l'aider à s'approvisionner avec des meilleurs prix, puis... avoir un plus grand réseau pour sa vente au détail, disons. Sinon, il va posséder une esclave sur une période de 3 mois, mais c'est quelque chose de considérable parce que sur le plan symbolique, hein, avoir une esclave à cette époque-là...
C'est un signe de prestige.
Oui, c'est exactement ça. C'est un signe de prestige. Donc, est-ce qu'il a fait pour ces raisons-là ou pour d'autres raisons, les sources ne le disent pas, là, mais tout indique que l'esclave qu'il a eu a été sa domestique pendant 3 mois, puis ensuite il a vendu cette personne.
Oui, parce que vous soulignez que bien qu'il y ait eu un esclave, jamais il a mis le doigt dans l'engrenage du marché esclavagiste.
Non, puis... exactement. Puis il aurait clairement pu, hein, à cette époque-là, il y avait des grands commerçants qui faisaient affaire dans le commerce esclavagiste, justement, puis c'est... Je pense c'est Alexandre McNider, je crois, l'anglais qui achète l'esclave à Drapeau, puis il faisait des affaires avec cet homme-là. Donc, clairement, il était initié à ce milieu-là, mais il a décidé de ne pas poursuivre, assez même que l'historien Marcel Trudel a recensé tous les propriétaires d'esclaves sur 2 siècles au Canada, puis le nom de Joseph Drapeau se retrouve même pas dans cette liste-là. Donc, c'est quelque chose qui a été très éphémère dans son parcours. Sinon, il faisait crédit à une partie de sa clientèle. Pendant la décennie 1780, il a fait crédit à environ une quinzaine de ses clients. Oh, pardon. Une quinzaine de ses clients pour un total d'environ 6 000 livres. Donc,
est-ce que c'était mal perçu à l'époque de faire crédit? Aujourd'hui, ça va de soi, mais il fut un temps où ça n'allait pas de soi. Puis est-ce que c'était une activité économique qui était tout à fait légitime comme pouvaient l'être les autres activités économiques ou c'était assez mal vu, c'était de l'usure, c'était ci, c'était ça?
Non, le crédit à cette époque-là, c'était pas mal vu, c'était même une pratique assez courante en fait, parce que il y avait peu de numéraires en circulation, donc pour favoriser ses affaires, ben le marchand il devait faire crédit, puis il y avait aussi lui-même des crédits chez des individus qui lui fournissaient de la marchandise. En fait, ça jouait un rôle très important. Puis à partir du moment où est-ce qu'il y a des échanges marchand, puis qu'il y a une économie de marché qui commence à se mettre en place, ben le crédit, c'est une pratique assez fréquente, puis c'est même un investissement très stable et intéressant pour les marchands, en fait. Le crédit, ça se contractait souvent chez un notaire, puis c'est ce qu'on appelait une obligation, en fait. Mmh. Donc, Joseph avait contracté beaucoup d'obligations envers ses clients, puis il pouvait... Souvent, il y avait une entente, par exemple, bon, le remboursement doit être fait en 3 mois, 6 mois ou 1 an. Puis quand les clients ne respectaient pas l'entente écrite dans l'acte notarié, Joseph Drapeau ne se gênait pas pour aller saisir tout ce qu'il pouvait saisir, en fait. Il voulait récolter tous les dollars qui lui étaient dus.
On va y venir, mais c'est un bon requin.
Oui,
hein?
oui, vraiment.
Une dernière question sur la décennie 70. Là, vous dites qu'il commence à faire des affaires... 80, dis-je.
Oui.
Il commence à faire des affaires avec des grands marchands anglais.
Oui.
Puis, comment le fils de paysan en arrive à tisser des liens avec les grands marchands anglais? Est-ce que c'est uniquement dû à sa relation avec son beau-père, ou est-ce qu'il y aurait une autre piste à explorer pour savoir pourquoi il tombe dans ce milieu-là?
Moi, je crois pas que c'est l'aspect seigneurial, en fait, qui va l'aider à performer dans ce marché-là, mais peut-être justement l'alliance commerciale qu'il a contractée avec Louis Bourdage, qui est un marchand francophone, mais un très gros marchand francophone de la Haute-Ville. Donc, le fait de contracter une entente avec cet individu-là a peut-être facilité, en fait, la création de liens, parce que lui, on sait qu'il commerçait énormément avec les marchands britanniques. Mais sinon, bon, j'imagine que Joseph Drapeau, c'est quand même un individu qui était en mesure de performer, puis de il y a eu beaucoup d'opportunisme dans son parcours. Mm-hmm. Hein? Donc, tu sais, on sait que c'était quelqu'un de lettré, donc j'imagine qu'il a aussi appris la langue anglaise parce que c'était une nécessité nécessairement. Donc, je dirais ces éléments-là, le fait d'apprendre la langue anglaise, mais aussi une alliance qui l'a peut-être aidé à s'établir. Là. Oui.
Alors, 1789, Révolution française, mais surtout l'acquisition de la première seigneurie.
Exactement.
Joseph Drapeau va acheter la seigneurie de Champlain, puis là, vraiment, ses affaires seigneuriales vont débouler.
Oui.
Avant d'arriver au sujet de l'achat de la seigneurie, question gigantesque, mais non moins essentielle. Pouvez-vous nous expliquer très rapidement, autant que faire se peut, en quoi consiste le régime seigneurial?
Ouais, c'est en effet une très vaste question, parce que, tu sais, si on remonte aux origines très, très, très lointaines, il faut revenir justement en Antiquité. Là, les Romains avaient des seigneuries et tout. Mais le modèle qu'on a eu au Québec, en fait, ou en Nouvelle-France, c'est vraiment une version qui est issue de la féodalité française des 17e et 18e siècle. Non, 17e siècle, en fait. Vraiment le modèle qui est régi par la coutume de Paris, qui est
la loi.
Le corps de loi civile, exactement. Fait que, tu sais, au Québec, en fait, le régime seigneurial, ça a été un élément structurant très important. C'est la seigneurie qui a servi de cadre à l'éclosion de la colonisation. En fait, tu sais, c'est... On distribuait des terres pour que les paysans s'établissent puis colonisent le territoire, en fait. Donc, c'est vraiment sous les structures du régime seigneurial que ça s'est produit. Mais, en fait, c'est pas uniquement un mode d'organisation de l'espace. C'est aussi la manifestation tangible d'une société hiérarchisée. Dans son essence, en fait, le régime seigneurial, ça implique une relation qui est fondée sur l'inégalité. Donc, on a d'un côté un chef, le seigneur, et ses subalternes, les censitaires. Puis, il existe entre les deux un lien d'assujettissement qui se manifeste justement par les limites de la propriété du sol, puis qui est régi par la coutume de Paris.
Oui, ben vous parlez de limite de la propriété du sol, c'est que on ne vend et on n'achète pas une terre sur le régime seigneurial comme on peut le faire aujourd'hui, c'est-à-dire sous un contrat simple, une entente de 1 à 1. Il y avait toute une manière de donner et de transmettre les terres au régime seigneurial. Pouvez-vous peut-être élaborer sur...
Oui, c'est ça. Mais en fait, pour les paysans, leur terre n'est jamais possédée entièrement, en fait. Hein? Justement, ils tiennent la terre d'un seigneur, puis ils ont des redevances envers lui.
Et le seigneur du roi.
Oui, le seigneur, exactement, tient sa seigneurie du roi. Donc, c'est vraiment un rapport... en féodalité en Europe, on va parler de liens, le vassau et le suzerain. Là, en Nouvelle-France, c'est un peu moins ça, quoique c'est les mêmes bases là, qui sont là, mais c'est ça. Donc, il y a vraiment un lien. Donc, on tient la terre. C'est pour ça qu'on... L'habitant, quand il reçoit une censive, on va l'appeler le censitaire, mais on voit aussi dans les sources un tenancier, parce que d'où le mot tenure pour la terre, donc il tient la terre.
Jamais la terre ne lui appartient totalement.
Non, exactement. Par exemple, s'il vend sa terre, il doit donner le 12e du prix de vente au seigneur. Puis c'est d'ailleurs pour ça que c'est important dans le parcours de Joseph Drapeau, parce que être seigneur, ça l'implique de nombreux privilèges, en fait. C'est je peux en énumérer quelques-uns là, mais par exemple on a le cens, qui est un impôt symbolique payé par le censitaire à chaque 11 novembre de chaque année. On a les rentes seigneuriales aussi, qui sont des droits onéreux du seigneur. On a les lots et ventes qui justement correspondent à ce que je viens de mentionner, qui sont un droit de mutation. Donc si par exemple tu vends ta terre, tu dois donner le 12e du prix de vente au seigneur. Puis le seigneur a également un autre droit qui s'appelle le droit de retrait. Fait que ça, c'est, il peut récupérer la terre d'un censitaire s'il juge que le censitaire a voulu le frauder en mentant sur le prix de vente. Par exemple, ça s'est vu des censitaires qui disent « Ah ben moi, je vais vendre, j'ai vendu ma terre 100 livres, donc je vais juste te donner 10 livres. » Mais au final, en dessous de la table, si on peut dire ça, il va recevoir l'argent de l'autre personne. Donc si le seigneur se rend compte de ça, il peut reprendre la terre et l'habitant vient de perdre littéralement cette terre. Puis aussi le droit de banalité, qui est, dans le cas de Joseph Drapeau, son privilège le plus considérable. Le droit de banalité, en fait, c'est les habitants de la seigneurie sont obligés d'aller moudre leurs grains au moulin du seigneur, puis ils doivent donner le 1/14e de leur production agraire au seigneur. Donc Joseph Drapeau, qui a fait l'acquisition d'énormément de seigneuries, il récupère le 1/14e de toute la production agraire sur toutes ces seigneuries-là, qu'il peut revendre ensuite à profit sur les marchés. Donc c'est considérable, puis ça c'est juste en raison de son droit juridique sur la terre. Il a fait aucune activité économique, c'est pas un échange, là. C'est vraiment le seigneur vient ponctionner une partie de la production paysanne. Puis c'est un privilège qui est absolument considérable. Puis aussi, d'un point de vue symbolique, un banc à l'église, en fait, parce qu'à cette époque-là, la religion est très, très, très importante. Puis le fait qu'il y ait un banc réservé pour le Seigneur dans les églises des seigneuries, c'est une forme de reconnaissance sociale, en fait.
Alors, Joseph Drapeau devient cette personne, devient ce Seigneur en 1789. Et puis, dans les années 90, vous dites qu'il y a deux phases d'acquisition de seigneuries. C'est-à-dire, en 89, il achète sa première seigneurie, celle de Champlain. Puis ensuite, vient deux phases dans, encore une fois, son ascension socio-économique. Alors, quelles sont ces deux phases d'acquisition et qu'est-ce qui les caractérise?
Oui, en fait, c'est ça. Donc, j'ai divisé en deux phases, justement, les acquisitions seigneuriales de Joseph Drapeau. La première se date de 1789 à 1793, puis elle s'arrête, en fait, uniquement parce que Joseph Drapeau tombe malade. On peut le lire dans son testament, là, il croyait qu'il allait mourir, puis tout. Donc, il était malade quelques années, en fait, donc ça l'a vraiment ralenti ses activités. Je crois que c'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a comme deux moments où est-ce qu'il y a des activités seigneuriales. Dans la première phase, Joseph Drapeau, en fait, il fait des transactions avec des familles roturières, analphabètes, souvent qui sont en déboire administratif et financier.
C'est son aspect requin, là, en fait.
Vraiment, en fait. Puis l'exemple de Louis Lepage est le plus révélateur. Selon moi, Louis Lepage était le seigneur de Rimouski. Puis c'était vraiment la lignée familiale. Hein. Ses ancêtres avaient fondé Rimouski, puis il n'y a eu aucun autre seigneur. Puis il était seigneur de Rimouski, Saint-Barnabé, puis Sainte-Claire. Donc il y avait trois seigneuries. Contracte un prêt tout bonnement au marchand, en fait, Joseph Drapeau, de 200 livres. Puis il met en gage ses seigneuries. Louis Lepage n'est pas en mesure de rembourser, en fait, à Joseph Drapeau. Joseph Drapeau se saisit de l'occasion pour saisir les seigneuries, puis en fait, il devient seigneur de Rimouski, Sainte-Claire et Saint-Barnabé dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, assez qu'il y a une historienne, Chassé, Béatrice Chassé, en fait, qui qui a fait l'histoire régionale de la région de Rimouski. Puis elle, en parlant de Joseph Drapeau, elle dit que Louis Lepage a été se mettre littéralement dans la gueule du loup. Tu sais, fait que c'était vraiment, comme vous dites, un requin qui saisissait toutes les opportunités pour améliorer ses conditions économiques, disons. Puis ce qui est intéressant aussi avec Louis Lepage, c'est que bon, là, ils viennent de saisir toutes ses seigneuries, mais Joseph Drapeau, il a un bon cœur, donc il donne une terre à Louis Lepage avec une ferme. Il dit, bon, ben, vous pouvez vivre sur cette terre, mais évidemment, il y a quelques conditions. Donc, au moment où est-ce qu'il donne la terre, Joseph Drapeau dit, je vous donne la terre, mais si vous n'avez pas d'enfants à qui vous pouvez redonner cette terre-là, je la récupère. Finalement, Louis Lepage a des enfants très tardivement, à presque l'âge de 50 ans. Donc, Joseph Drapeau ne peut pas récupérer cette terre, mais il trouve un moyen, 5 ans plus tard, de le poursuivre en justice et de récupérer la terre. Il lui laisse le droit de vivre dessus, mais il doit quand même payer une rente annuelle. Donc, le seigneur des lieux s'est fait complètement déposséder. Puis, dans la région du Bas-Saint-Laurent, on peut dire que Joseph Drapeau n'était pas très apprécié. Quand il est arrivé sur place, il a refait tous les titres de concession, il a augmenté le prix des rentes, des fois allant jusqu'à 65% plus cher. Là. Donc les habitants, il y a eu beaucoup de contestations.
Mais vous parlez de ce 65% d'augmentation-là, mais c'était sur arrière-fond de crise économique, si je me souviens bien. Dans votre mémoire, vous mentionnez que cette augmentation-là n'est pas... bien qu'elle soit substantielle, n'est pas totalement désincarnée du contexte historique et économique. Est-ce que je me trompe?
Absolument, mais en fait, la crise économique, je crois que quand je mentionne l'importante augmentation des prix, c'est quand que c'est par rapport à ses baux dans ses logements. En fait, là, il y avait Joseph Drapeau a augmenté de 500% le prix des logements sur une période de 5 ans. Mais pour les rentes, c'est vraiment... dans ce qu'on appelle en histoire, on parle du durcissement du régime seigneurial, justement. Donc, ça contribue vraiment à ce phénomène-là, mais c'est pas créé par une crise économique, même s'il y a eu beaucoup de débats sur la crise du monde rural, là, tu sais, au début du 19e siècle. À ce moment-là, il fait l'acquisition en 1791, donc il n'y a pas de crise économique dans le monde. Donc, c'est vraiment Joseph Drapeau qui veut faire plus d'argent. Là. Fait que ça nous amène vraiment aussi à nous dire, OK, tu sais, lui, il a été dans l'univers seigneurial avec une rationalité capitaliste. Là. Il voulait vraiment maximiser ses profits, puis il voulait pas uniquement un prestige social associé au titre de seigneur. Là.
Et qu'en est-il de la deuxième phase d'acquisition? Parce que là, c'est un peu la composition, cette première phase-là, c'est un peu la composition de son de ses acquisitions, mais il va y avoir une deuxième phase qui est différente sur le plan à la fois symbolique et économique, peut-être?
Oui, absolument. En fait, dans la première phase que je mentionnais, c'est surtout bon, des familles qui avaient beaucoup de problèmes, là. Puis, mais c'était aussi des seigneuries qui étaient pas développé autant que, par exemple, dans les zones où est-ce que la population était plus dense. C'est dans le Bas-Saint-Laurent, au moment où Joseph Drapeau fait les acquisitions, il y a peut-être dans la seigneurie de Rimouski, il y a peut-être 400 familles environ, donc c'est pas énorme. Mais dans sa deuxième phase, en fait, il va faire l'acquisition de 8 autres seigneuries, puis il va vraiment faire affaire justement là, avec des marchands, là, plus des marchands britanniques notamment, qui avaient des seigneuries très prestigieuses.
Du genre?
Puis, l'exemple le plus révélateur, c'est la moitié de l'île d'Orléans. Il va être seigneur de la moitié de l'île d'Orléans. Il va acheter cette seigneurie-là au marchand londonien Brooke Watson pour 20 240 livres. Donc, j'ai pas fait la conversion, mais c'est très considérable comme prix. Puis ça témoigne aussi du capital que Joseph Drapeau a été en mesure d'accumuler à ce moment-là. Puis c'est ça. Donc, la seigneurie de l'île d'Orléans est c'est très symbolique comme acquisition. C'est une seigneurie qui est très rentable. Elle est complètement peuplée. Toutes les terres sont défrichées. La production agricole est incroyable. C'est que dans les sources, on dit que c'est l'endroit dans la vallée du Saint-Laurent où est-ce que la production agricole est la plus considérable. Donc, lui, il fait l'acquisition de la moitié de ça. Donc, c'est justement très considérable. Puis, ce serait la différence entre ces deux phases d'acquisition. Le type d'individus avec qui il commerce. Dans la première phase, il profite des déboires des uns. Dans l'autre, il négocie plus d'égal à égal, en fait. Puis...
Oui, ouais. Vous dites que vous avez dit il y a quelques minutes que ça contribue au durcissement du régime seigneurial. Qu'est-ce que vous voulez dire par durcissement? Qu'est-ce que ça implique?
Ben, le durcissement du régime seigneurial, c'est un phénomène qui arrive après la conquête, puis c'est amené majoritairement par les seigneurs britanniques, mais l'exemple de Joseph Drapeau témoigne aussi qu'il a contribué à ce phénomène-là. En fait, c'est que... Après la conquête, évidemment, d'un point de vue démographique, là, la colonie commence à être plus peuplée, donc les terres sont beaucoup moins disponibles, ce qui donne un poids aux seigneurs parce qu'ils peuvent décider d'augmenter la rente étant donné que dans leur seigneurie, il n'y a presque plus de terres de disponibles. Donc, les censitaires qui veulent une terre doivent payer plus cher. Donc, les seigneurs vont augmenter la valeur des rentes annuelles, ils vont augmenter les charges inscrites dans les contrats de concession. Par exemple, ils vont empêcher les censitaires de pêcher ou ils vont prendre une partie de leur pêche ou du bois de construction. Les droits et privilèges seigneuriaux, ils vont s'appliquer plus rigidement. Donc, ce que je parlais tantôt, là, le droit de retrait, les droits de mutation, tout ça. Il y a beaucoup de seigneurs qui vont faire de la spéculation, en fait, sur les terres. Ils vont attendre que la population augmente encore, que la demande soit plus forte pour donner des terres et augmenter les rentes. Puis sinon, ils vont aussi diminuer la superficie des censives, donc ce qui rend la survie des habitants plus difficile, parce que si on n'a pas une terre suffisamment grande, l'objectif, c'est au minimum de nourrir sa famille. Là, t'sais. Donc voilà.
Puis en fait, ce que vous m'expliquez, c'est que le régime seigneurial devient une véritable entreprise capitaliste. Puis dans votre mémoire, vous faites la distinction entre seigneur capitaliste et seigneur paternaliste.
Oui.
Qu'est-ce que cette distinction est? Bon, je me doute de la réponse, là, mais de quel genre de seigneur était Joseph Drapeau?
Ouais, en fait, la réflexion que je fais dans mon mémoire, c'est vraiment une réflexion par rapport à l'historiographie. Donc, au début de l'entretien, je mentionnais qu'on a deux articles sur Joseph Drapeau. Le premier est écrit par Pierre-Georges Roy en 1926. Puis lui, bon, évidemment, il est influencé par le courant traditionnaliste, hein, qui dépeignait les seigneurs comme des hommes de bonne foi qui travaillaient main dans la main avec les censitaires pour le développement, qui n'avaient pas de hiérarchie, pas de rapport de pouvoir. Les deux travaillaient d'un commun accord et ils s'aimaient. Donc, il a écrit cet article-là à cette époque-là. Donc, il dépeint Joseph Drapeau vraiment comme un seigneur très paternaliste, que ses acquisitions de seigneurie ne l'auraient pas déraciné de ses origines modestes. Il aurait toujours été un bon seigneur pour ses censitaires, tout ça. Puis, à l'inverse, Céline Cyr et Pierre... Céline Cyr, pardon, dans le Dictionnaire biographique du Canada, justement, souligne davantage l'aspect capitaliste. Donc, j'ai dit, je vais faire une réflexion historiographique par rapport à ça. Et évidemment, bon, la réponse, je pense qu'on la connaît. Hein, Joseph Drapeau était définitivement un seigneur capitaliste, c'est-à-dire qu'il utilisait tous les moyens à sa disposition pour maximiser ses profits, puis augmenter son capital qui allait pouvoir par la suite réinvestir dans d'autres entreprises, en fait.
Quelles étaient ces autres entreprises? Puisque dans les années 90, c'est effectivement le temps où il acquiert ses seigneuries, mais c'est aussi une période où il diversifie beaucoup ses activités économiques.
Oui, oui, oui.
Quelles étaient ses activités économiques?
En fait, un élément... fondamental qui témoigne, en fait, je pense que Joseph Drapeau est un très gros marchand dans la vallée du Saint-Laurent, c'est ses chantiers de construction navale. Donc, il a fait l'acquisition dans sa deuxième phase d'acquisition de la seigneurie de la rivière du Gouffre à la baie Saint-Paul, en fait. Puis il va installer, en fait, un chantier de construction navale là-bas avec justement tout un réseau déployé avec des superviseurs, des employés. Puis il y a vraiment une hiérarchie comme ce qu'on voit dans les entreprises actuelles. Donc, c'est un indicateur de comment il était un capitaliste, en fait, tu sais. Puis c'est ça, donc son chantier de construction navale à la baie Saint-Paul, puis quelques années plus tard, au début des années 1800, il va en avoir un autre à Québec aussi, donc ça c'est très considérable dans la basse ville quand il est en mesure d'avoir son chantier sur les côtes. Tu sais, Québec à ce moment-là, c'est une des villes les plus importantes, c'est la ville la plus importante du Canada, c'est une ville portuaire, c'est l'entrée en Amérique du Nord, tu sais, jusqu'en 1865, elle va occuper un rôle économique très important, là, plus que Montréal, qu'on pense à tort à ce moment, par rapport au présent. Là, mm-hmm. Disons, là, Montréal est est une ville très importante, mais à ce moment-là, c'était Québec. Donc, le fait qu'ils soient capables, justement, d'avoir un chantier de construction navale à Québec est très considérable. Sinon, bon, il va continuer de faire affaire dans l'immobilier. Donc, il va louer ses immeubles soit par des baux résidentiels ou commerciaux. Il va louer encore ses fermes. Il va contribuer au phénomène de la commercialisation du secteur agricole. Donc, tu sais, lui, il va être dans des associations. Il va aller dans ses seigneuries, puis travailler avec les censiteurs pour qu'ils améliorent leur technique pour augmenter la production, mm-hmm. évidemment, pour que lui, au final, il en ait plus, puis qu'il puisse en vendre sur les marchés. Donc, c'est ce qu'on appelle la commercialisation du secteur agricole. Sinon, il continue dans la vente au détail, dans les créances, puis dans tout ce qu'on a mentionné par rapport à ses seigneuries. Donc...
On remarque que son activité est circulaire, en fait. C'est-à-dire qu'il devient seigneur, il fait pousser du grain, disons, et ensuite, il bâtit des bateaux, puis avec les bateaux, il vend son
ouais,
grain.
Exactement.
Puis il s'alimente lui-même, d'une certaine
exactement.
manière.
Exactement. Il réinvestit son capital dans d'autres entreprises qui vont augmenter son capital au final. Donc, c'est vraiment l'esprit d'un capitaliste, en fait. Puis ça, c'est intéressant parce que dans mon mémoire, je m'intéresse aussi à la transition économique qu'il y a eu au Canada à cette époque. Donc, avant, on était dans un mode de production économique plus féodal, en fait, tu sais, plus féodal, en fait, qui est basé sur une société hiérarchisée, donc d'ancien régime.
De prestige puis, plus que de...
Exactement, de prestige, puis bon... ça se manifeste à travers la seigneurie, puis le but, c'est juste de faire vivre, en fait, mm-hmm. l'élite. Mais là, au moment où Joseph Drapeau performe, ben là, il y a vraiment la rationalité capitaliste qui entre en jeu. Puis ce qui est intéressant dans le parcours de Joseph Drapeau, c'est qu'il profite simultanément de ces deux modes de production économique-là, parce que... Puis ça nous permet aussi de comprendre cette transition-là au Canada, justement, de là la pertinence de la biographie historique, hein, parce que à travers la trajectoire de Joseph Drapeau, on peut comprendre la transition économique. Puis, tu sais, 50 ans avant sa naissance, c'était seulement du féodalisme. Puis 50 ans après, c'était vraiment une société capitaliste. Donc, il arrive dans un moment de transition, puis il profite simultanément de ces deux modes de production économique-là. Donc, c'est ça, c'est comme vous dites, c'est circulaire. Puis il arrive vraiment à tirer son épingle du jeu de toute la conjoncture dans laquelle sa trajectoire s'inscrit.
Et puis, est-ce qu'il fait beaucoup d'affaires avec l'élite européenne, qu'elle soit française, anglaise, espagnole? Est-ce qu'il arrive à tirer son épingle du jeu, comment dire, de la proto-mondialisation de l'époque?
Ouais, ben, je sais qu'il a fait des voyages en Europe, justement pour aller vendre des bateaux, mais aussi des marchandises, mais je crois que j'ai réussi à retracer deux voyages, en fait. Puis c'est difficile j'ai pas beaucoup d'informations sur ses voyages en Europe, justement, puis je sais pas à quel point il a performé dans ce marché-là. Mais c'est quand même considérable de se dire que, tu sais, il est né dans fils de paysan, puis que en 1800, par exemple, il est à bord d'un des bateaux qu'il a construit sur son chantier de construction navale, puis il s'en va faire des voyages en Europe pour vendre la marchandise de son magasin général, puis ou ses bateaux. Donc, c'est une ascension qui est très considérable, mais... Joseph Drapeau, je crois pas qu'il était au point de d'être un gros commerçant, là, comme on a retracé, par exemple, le commerçant... anglophone et juif, Art, mm-hmm. en fait, qui contrôlait tout le marché dans l'Empire britannique. Joseph Drapeau n'était pas à ce niveau-là, mais il était quand même rendu au point de commercer en Europe.
Puis au même moment, au terme de sa vie, une fois qu'il est passé de fils de paysan à très, très grand marchand et seigneur, il va se mettre à faire de la politique.
Oui.
Alors, quel est son parcours politique?
En fait, il y aura un court parcours politique parce qu'il va décéder en 1810, mais en 1809, il est élu dans la circonscription de Northumberland, qui est justement à la baie Saint-Paul, là, où est-ce qu'il y a son chantier de construction navale, pour le Parti canadien, en fait. Puis il va être réélu en 1810 également pour le Parti canadien. Donc, c'est ça, un court parcours en politique pour Joseph Drapeau.
Il se joint au Parti canadien, mais en même temps, vous dites que on peut pas vraiment lui accoler l'épithète de nationaliste, parce qu'en même temps, il donne des gages, comment dire, au pouvoir britannique. Comment cette espèce de binarité, bipolarité-là se manifeste chez lui?
Ben, en fait, c'est une question très, très, très intéressante. Puis je pense que pour comprendre ce phénomène-là, il faut se mettre justement dans le contexte de l'époque. Qu'est-ce que ça impliquait être nationaliste à cette époque-là? Puis on sait, par exemple, qu'au moment de la conquête, en 1760, il n'y avait pas de sentiment national canadien-français. C'est vraiment un sentiment qui est arrivé avec le contact avec les Britanniques. Donc la conquête est un élément définitivement crucial dans ce qu'on pourrait dire cet aspect identitaire-là, parce que, bon, là, les Canadiens commencent à avoir un rapport à l'autre. Puis les Britanniques définissent aussi qu'est-ce qu'un Canadien, tu sais. Donc, les Canadiens en viennent qu'à intérioriser ça. Puis, par exemple, dans les années 1770 jusqu'à 1790, il y a eu des mouvements nationalistes, mais qui étaient surtout portés par des hommes de lettres, en fait. Puis ça tournait beaucoup autour du désir d'avoir une république. Puis c'était des hommes de lettres qui venaient d'Europe, mais qui avaient vécu en Nouvelle-France, connu le changement de régime. Puis finalement, les Britanniques les ont emprisonnés, puis ont détruit leur...
Vous parlez du journal, le premier journal arrivé à Québec, ou les...
Pas la Gazette, le Canadien, en fait, mais vraiment un mouvement élitaire. Là, que c'est Yvan Lamonde qui en parle dans un de ses ouvrages, puis aussi l'historien, je crois, Bernard Endress, en tout cas. Mais donc, c'est vraiment un petit mouvement qui atteignait pas les masses. Là où ça change considérablement, c'est en 1791, au moment de l'acte constitutionnel. Le changement majeur, c'est que à partir de ce moment-là, il y a une chambre de représentants élus. Donc, les Canadiens peuvent élire des députés. Puis, en chambre, ils commencent à avoir des débats. Puis, qu'est-ce qui se passe avec ces débats-là? C'est qu'on se rend compte rapidement qu'il y a deux camps qui se forment. Le camp des francophones et le camp des anglophones. Donc, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'il y a un sentiment national qui se développe en politique. Puis, justement, en 1810, au moment où est-ce que Joseph Drapeau est député pour le Parti canadien, le gouverneur James Craig, il dissout l'Assemblée, il emprisonne le rédacteur en chef du journal Le Canadien, qui était la voix de la députation, justement, du Parti canadien. Puis il écrit à Lord Liverpool, qui est le secrétaire d'État aux colonies, je vais vous lire la citation, là. « En vérité, il semble que ce soit leur désir d'être considéré comme formant une nation séparée. La nation canadienne est leur expression courante. » Donc, on sait qu'en chambre, les députés utilisaient ça. Puis, fait que là, je suis retourné voir, Joseph Drapeau, par ses votes à l'Assemblée, appuie le Parti canadien à une époque où on sait que les individus disaient « la nation canadienne » est leur expression courante. Alors, je pense que oui, au terme de sa vie, malgré le fait qu'il a été en concomitance avec le pouvoir britannique, puis souvent c'était par nécessité, hein, pour ses affaires, ses entreprises, puis à une époque où est-ce que le mouvement était pas très développé, mais au terme de sa vie, ses actions politiques amèneraient à dire que oui, en fait.
Alors, il meurt en 1810.
Oui.
Ma dernière question pour cet entretien, quelle sera sa postérité et surtout, quelle sera sa postérité mémorielle? Joseph Drapeau, bon, vous avez un peu vendu la mèche, il n'y a pas beaucoup de documentation sur lui, mais de quelle manière sa présence se manifeste autrement que dans les livres?
C'est une excellente question, en fait. Bon, ben, pour sa postérité, évidemment, ben là, il va léguer un patrimoine absolument considérable à sa femme et ses 7 filles à ce moment-là, parce qu'il y a eu des garçons, mais ils sont tous décédés avant l'âge de 3 ans. Donc, 7 filles, il va léguer un patrimoine seigneurial, des entreprises capitalistes, des immeubles, tout ça. Sa femme va continuer de gérer son patrimoine, en fait. Puis ensuite, en 1826, je crois, il va léguer le tout à ses filles. Puis elles vont être seigneuresses dans le Bas-Saint-Laurent. Puis par rapport à l'héritage de ça, tu sais, on sait que, tu sais, par exemple, quand on s'en va en Gaspésie, là, sur la 132, là, on arrive à Sainte-Flavie, on doit faire un choix. Ben, Sainte-Flavie, c'est la fille de Joseph Drapeau. Mmh. Puis quand on tourne vers la baie des Chaleurs, on est sur le boulevard Flavie Drapeau, qui est la fille de Joseph Drapeau, justement. Donc, tu sais, on a Sainte-Flavie, Sainte-Angèle, Sainte-Luce, Luceville, qui sont tous les filles de Joseph Drapeau, qui ont laissé leur nom littéralement à des villes là, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis sinon, par rapport à l'aspect mémoriel de Joseph Drapeau, ben il y a une plaque sur sa maison dans la basse ville de Québec, mais il n'y a pas énormément d'éléments. Là,
ça se limite à ça?
Ça se limite vraiment à ça par rapport, si on pourrait dire, au public, là, disons, là, parce que dans le milieu universitaire, dans la communauté historienne, Joseph Drapeau est quand même bien connu. Hein, je l'ai vu dans beaucoup de monographies, il est cité comme exemple. Mais ouais.
Alors, on peut imaginer que votre premier livre, qui sera votre mémoire de maîtrise, va contribuer à faire revenir sa mémoire.
Peut-être.
Alors, Monsieur Raphaël Bergeron-Gauthier, je vous remercie infiniment de m'avoir accordé cette entrevue.
Merci énormément, c'est un réel plaisir.
Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de À la recherche du Québec. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode sous peu. Merci.